Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. Pour thème, aujourd'hui, je vous propose de parler du suicide et de la prévention autour du suicide. Comment prévenir, comment accompagner les personnes suicidaires, comment vivre le deuil après le décès d'un proche par suicide, comment on écoute, comment on combat, comment ne pas se tromper de combat. Un thème à la fois douloureux, un thème difficile, mais on l'aborde aujourd'hui dans ce Vivante Église. Et on retrouve dans un instant nos trois invités en plateau. À tout de suite. La prévention du suicide avec l'association La Lumière de Raphaël, c'est l'objet de ce Vivante Église. Au micro et en plateau, je reçois ici dans les studios de Lourdes, pas très loin du sanctuaire, et de la grotte Massabielle, Lali. Bonjour Lali.
Bonjour.
Alors vous êtes proche du fondateur de La Lumière de Raphaël.
Nous l'avons fondé ensemble.
Vous l'avez fondé ensemble. Vous allez un peu nous raconter dans un instant cette belle histoire, hein. Histoire dans la douleur. Mais c'est une histoire de vie, au fond.
Oui.
Ouais, on va en parler tout de suite. À vos côtés, le docteur Patrick Lepeau. Bonjour, docteur.
Bonjour et bonjour à tous.
Vous êtes, vous, directeur, et c'est une deuxième année pour ce pèlerinage national de prévention du suicide, ici à Lourdes, médecin et diacre. Et on vous retrouve dans quelques minutes. À vos côtés, Marion. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté cette intervention dans le cadre aussi du témoignage. Vous êtes mariée, vous êtes mère de famille et on vous retrouve dans quelques minutes dans ce plateau
avec
de
plaisir.
Vivante Église. C'est une église bien vivante. Lali, racontez-nous un peu votre histoire. Alors on va parler bien sûr de douleur. Avec La Lumière de Raphaël et puis j'ai ce livre entre les mains, c'est le livre du père Éric Lestage qui est décédé en juillet 2023, auteur de ce livre qui est paru aux éditions Salvator il y a un peu plus d'un an. Ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie, un prêtre engagé dans la prévention du suicide. Ce père Éric Lestage, vous l'avez connu
oui.
Pendant plus de 20 ans. Racontez-nous un peu cette belle histoire depuis avec le père Éric et puis l'histoire aussi de La Lumière de Raphaël. On vous écoute et merci à vous trois.
Alors avec le père Éric Lestage, c'est un accompagnement de 31 ans. Donc je faisais une marche pascale et c'était compliqué pour moi parce que j'avais envie de mourir. Et je ne savais plus vers qui me tourner. Il se trouve qu'il était à côté de moi. Est-ce l'Esprit Saint? Est-ce les circonstances? Et je me suis tournée vers lui et je lui ai dit « j'en peux plus ». Il me dit « ah bon, t'en peux plus? T'en peux plus de quoi? T'es fatiguée de marcher ?» C'était une marche. Je lui ai dit « non, j'en peux plus de vivre ». Et donc là, il s'est arrêté. Il m'a dit « ah ». Et voilà, notre accompagnement a commencé comme ça. Il a commencé par une écoute avec beaucoup de questions qui ne me dérangeait pas, parce que ça me permettait aussi d'être plus claire avec moi-même, ces questions. Et puis on a cheminé ensemble. Et il se trouve que en 2000, j'ai été au pèlerinage du Rosaire. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide au pèlerinage du Rosaire. Et du coup,
donc
ne pouvais...
Ici à Lourdes.
Donc ici à Lourdes.
Oui, ici à Lourdes, oui. Et du coup, je ne pouvais plus venir à Lourdes parce que je ne sentais plus en sécurité. Donc voilà. Et en fait, en 2004, j'ai été voir Eric parce qu'il m'accompagnait. Il m'a accompagné de 1992 à son décès. Et donc, je lui ai dit, ben, je suis très triste parce que je ne peux plus aller voir maman Marie à Lourdes en sécurité. Il me dit, ben, t'as téléphoné au sanctuaire pour savoir s'il existait quelque chose? Je lui dis, oui, mais il n'y a rien qui existe pour le suicide. Il me dit, banco, si rien n'existe, on va le créer. Et donc, 3 mois après, au mois d'août 2024, on partait avec... 2004, pardon. On partait avec un ange gardien, Sophie, Eric et moi. pour notre premier pèlerinage.
Donc c'était il y a 20 ans, on est en 2020. On est en 2024.
Ah oui, c'était 2003, pardon.
2003, donc il y a 21 ans. Et oui. Une longue histoire. Oui. C'est l'histoire aussi donc, des débuts de ces premiers pèlerinage à Lourdes, aujourd'hui et depuis deux ans, malheureusement depuis aussi le décès du père Éric Lestage, c'est un pèlerinage qui est devenu national.
Oui, au début nous étions tout petits parce que il se trouve que le premier pèlerinage on était trois, et après Éric a commencé à en parler un peu autour de lui, donc on est vite monté à 10-12, et puis ça a plafonné à 12 pendant 20 ans. Et puis pour le 20e pèlerinage, Éric et moi, on s'est regardés, on a dit, il faut qu'on le rende national quand même, parce que ce sujet est trop important et il touche trop de personnes pour qu'on reste à 12. Et donc on s'est dit, il y a trop de personnes concernées, il y a trop de gens en détresse pour qu'on reste entre nous sur un sujet aussi important. Donc du coup, on a été toqués au sanctuaire, auprès du recteur qui nous a ouvert les portes de la communication pour rendre notre pèlerinage national.
Alors on va revenir très vite vers vous, Lali, je me tourne vers le docteur Patrick Lepaut qui est directeur de ce pèlerinage, au fond depuis deux ans, pèlerinage de prévention du suicide national, médecin et diacre. Vous étiez aussi un ami depuis près de 20 ans du père Éric. Racontez-nous un petit peu vos rapports avec le père Éric et puis au fond la suite devenu directeur de ce pèlerinage.
Donc effectivement, c'est une longue histoire. Ça a été un compagnonnage avec Éric. Il aimait venir à la maison à Bordeaux, dormir et du coup parler et reparler des situations d'écoute difficiles qu'il avait entendues. Donc voilà, j'ai fait un peu un rôle d'accompagnement et de supervision un peu informel. Et c'est du coup pendant ces 15 années d'accompagnement que cette amitié s'est liée. Ça m'a appris aussi à entendre et à comprendre comment il intervenait, comment il écoutait, comment il laissait la place à l'autre. Ça m'a beaucoup formé. Et puis avant de mourir, il a dit... Ouais, c'est Patrick qui reprendra la direction du pèlerinage. Donc voilà, je me suis laissé faire, j'ai obéi. Et je ne regrette pas. Et je l'ai vraiment après choisi.
Alors, avez parlé du père Éric, d'un compagnonnage pendant près de 20 ans. Comment écoutait-il
Éric ? Il écoutait, et c'est vraiment quelque chose qui est important. Il écoutait avec beaucoup d'attention, mais... sans pudeur, c'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui est en crise suicidaire, le risque, c'est d'être silencieux parce que on n'ose pas questionner, on n'ose pas. Et en fait, vraiment, que ça soit les psychiatres actuellement et de l'expérience d'Éric, c'est vraiment d'oser poser quelques questions précises et après se taire. Parce qu'il faut montrer qu'on a envie de rejoindre l'autre dans son bourbier de souffrance. Mais une fois qu'il commence à dérouler le fil, là, surtout, c'est de se taire. Et généralement, c'est là où on est mauvais et on va le couper pour dire « mais ça inquiète pas, c'est pas grave, c'est banal, non ».
Quelles sont les questions puisque vous avez appris, il vous a formé au fond, durant toutes ces années.
En fait, dans le suicide, il faut entendre les signaux faibles que les personnes à risque suicidaire nous envoient. La vie est de plus en plus lourde, j'ai pas de sens à ma vie, qu'est-ce que je fous ici sur Terre? Et ça, il faut les entendre comme des signaux faibles et là leur dire... Tu penses à la mort, poser des petites questions comme ça. Est-ce que la question du suicide peut te frôler l'esprit? Non, pas du tout. Je suis bon, très bien, merci, désolé. Oui, au contraire. Eh ben là, on y va et on continue à dérouler le fil.
Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter dans de telles périodes peut-être de crise suicidaire?
Alors moi, de ce que j'ai entendu d'Éric, ce qu'il faut éviter, c'est pas grave, t'inquiète pas, on a tous des idées noires. Donc la banalisation, le silence, parce que de pas répondre à la perche, la personne qui est en crise suicidaire, elle envoie des perches. On prend ou on prend pas. Si on est très mal, on prend pas et c'est normal qu'on prenne pas. Mais si on peut entendre, et c'est pas que le boulot des soignants et des psys, c'est vraiment tous, on a à dire, waouh, ce que tu me dis là, moi j'entends... un risque de t'as pas envie de vivre. Ouais, c'est ça, j'ai pas envie de vivre. Ok, alors, on peut en parler un peu plus? Oui, on peut en parler un peu plus. C'est quoi? Et comment tu vois les choses? Et si on n'avait pas parlé, qu'est-ce qui serait passé? Et là, la personne, elle va commencer à dérouler sa bobine. Et là, il faut le laisser dérouler. et Eric dit bien, accepter d'entendre l'horreur. On se fait un peu éclabousser, on en prend un peu plein la figure, mais c'est pas grave. Et c'est une fois qu'on l'a rejoint dans son bourbier que, du coup, elles se sont écoutées.
Merci, Patrick. Lali,
Alors, moi, ce qui me semble important, c'est de ne pas de donner des solutions toutes faites. La personne, elle a la solution en elle. Et c'est savoir l'écouter pour faire émerger en elle la solution qui sera la bonne. Au début, Eric, il me disait « Oh, ben, il suffit d'eux, il faudrait que tu fasses ça et ça va marcher. » Eh bien non, ça ne marchait pas pour moi. Donc, et plusieurs fois, je lui ai claqué la porte au nez ou je lui ai raccroché au téléphone en lui disant « Non, ce n'est pas ça. » Et donc du coup, il me disait que je lui avais un peu appris à écouter. Je lui avais appris à se taire et appris à ne pas donner des conseils tout faits.
À ceux et celles qui vous écoutent, hein, alors je pense peut-être à des parents qui sont confrontés à des crises peut-être en ce moment suicidaires de leurs ados, d'étudiants et puis suicidaires aussi pour des parents, des adultes. Quelles sont les clés, non pas des conseils, mais que vous pourriez donner là tout de suite immédiatement à celui ou celle qui vous écoute hein, sur un tel sujet, hein, on parle de suicide, donc on parle quand même de mal-être, on parle de blessures de la vie, d'un désir de non-vie.
Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur parce que la personne, elle veut mourir, mais elle veut surtout vivre.
Alors ça, c'est un paradoxe. Expliquez-nous. Oui. Elle veut mourir, mais elle veut surtout vivre.
En fait, c'est une accumulation de souffrance, le désir de mourir. C'est très rarement, ça arrive, mais c'est très rare, que ce soit un vrai désir de mort. C'est un désir d'arrêter la souffrance pour mieux vivre. Et donc, en fait, c'est une envie de vivre, mais de vivre mieux dans des circonstances qui sont autres. Et moi, je dis souvent que les suicidaires, ce sont des personnes qui sont des chercheurs. On cherche des solutions. On met beaucoup d'énergie dans la recherche. Et Eric me disait non, tu n'es pas lâche, non, tu n'es pas. C'est pas une solution de facilité. On a cherché des solutions et on les a pas trouvées. Et on n'a pas trouvé quelqu'un qui était à côté de nous pour nous dire eh, je suis là. Tout simplement être là.
Oser se risquer dans une présence hein, auprès de personnes qui sont peut-être dans un temps de turbulence. Hein, donc, se risquer à l'écoute. Hein, vous avez parlé de peur, c'est-à-dire on a peur de ces personnes qui sont en période, est-ce qu'on peut parler de crise suicidaire, Lali ou docteur Patrick hein.
Je pense qu'on a peur de la mort. Donc,
c'est derrière ça. La peur de la mort.
Parce qu'on
parle de suicide ou de tentative de suicide ou de crise suicidaire, quelle est la profonde peur
hein? C'est la peur de la mort. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est surtout pas de dire si, ça va aller mieux. C'est je suis prêt à t'écouter jusque dans le plus difficile de toi. Et c'est dans cette écoute que je suis en alliance avec toi, je fais corps avec toi, et c'est ça qui va donner l'énergie à la personne de trouver des petites solutions et de remonter, parce que comme le dit Lali, c'est vraiment une accumulation de souffrance. Moi, là, c'est un millefeuille de souffrance, et donc si on peut en enlever une ou deux, trois, quatre, cinq mille feuilles de cette souffrance, et ben ouf, ça allège et on reprend un tout petit peu de légèreté.
La peur de la mort dans notre société, elle est très marquée. On ne meurt plus qu'à l'hôpital et on cache, on l'a bien vu avec le Covid, on cache la mort et la mort fait partie de la vie. Et elle doit être réintégrée dans notre société et dans nos vies. Parce qu'on mourra tous un jour, on le souhaite le plus tard possible, mais on mourra tous un jour et on sera tous confrontés au deuil des gens qui sont autour de nous. Donc, autant s'y préparer et ne pas en avoir peur au point de la cacher.
Et aujourd'hui, il se trouve peut-être que notre société, les médias eux-mêmes, sont dans cette un peu fermeture. On occulte cette finitude de l'homme. Mmh. Marion, vous n'avez pas encore pris la parole dans cette première partie de Vivante Église autour de ce thème et puis ce pèlerinage national auquel vous participez. Hein,
oui.
Alors vous y participez pourquoi à ce pèlerinage national de prévention du suicide? Vous avez aussi votre propre histoire.
Hein, tout à fait, j'ai ma propre histoire. Voilà.
Et vous avez aussi votre jardin secret, mais vous avez accepté aussi cette prise de risque. Hein, voilà,
tout à fait.
Vous n'avez pas eu peur de venir?
Non, hein, non, je me suis vraiment sentie appelée.
Oui.
D'abord par Lali, concrètement, qui m'a demandé si j'acceptais de venir témoigner, peut-être pour un message d'espérance. Et le jour où Lali m'a demandé de témoigner, dans mon temps de prière, j'ai lu cette phrase de la Bible, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Et là, je me suis dit, tu ne peux pas refuser avec cette parole, tu dois y aller. Et j'ai eu aucune hésitation et je suis très heureuse de venir témoigner aujourd'hui. Voilà, dans mon histoire personnelle, tout d'abord, j'ai une de mes sœurs, puisqu'on est une famille très nombreuse, qui a mis fin à ses jours, il y a plusieurs années. Et je pense pas que je serais là peut-être pour cette sœur, mais moi-même, j'ai été amenée à traverser aussi. Je suis allée dans la tempête, parce que moi, quand je prie, je suis beaucoup dans les images. Et je vois cette grande tempête comme une lame de fond qui est venue m'attirer. C'est très mystérieux pour moi, parce qu'il n'y avait pas d'explication concrète pourquoi je vivais ça. Une dépression profonde qui m'a amenée aussi à vouloir arrêter à tout prix cette souffrance, comme il est dit dans la lumière, dans la prière, indicible. Et je ne pouvais en parler à personne, tellement c'était indicible. Voilà. Et j'ai eu la chance, bien avant de vivre cette expérience très douloureuse, de rencontrer sur mon lieu de vacances les missionnaires avec le père Éric Lestage et Lali et bien d'autres personnes. Et je ne savais pas, voilà, que je traverserais cela. Et grâce à cette rencontre, j'ai pu trouver une main sur laquelle m'accrocher. Voilà.
Effectivement, on a eu la chance de rencontrer Marion, parce que pour nous, c'est une chance de cette rencontre. Et on a été un peu comme ses anges gardiens. On lui a proposé un pèlerinage sur la route des saints, qui l'a beaucoup transformé. Et puis après, on lui a proposé Lourdes, parce que ça nous semblait important de proposer Lourdes à toutes les personnes qui ont traversé la tempête, comme elle dit, voilà, ou qui la traversent encore.
La Route des Saints a préparé aussi le pèlerinage à Lourdes, pour vous ?
Tout à fait, tout à fait. Ça a vraiment été un ancrage pour moi dans la foi de vivre ce pèlerinage. Je sortais tout juste d'une hospitalisation assez longue et je n'étais pas encore bien, bien remise du tout même. Et je suis partie directement à Paray-le-Monial où j'ai commencé le pèlerinage. Et je sais, en faisant une relecture de ma vie, que ce pèlerinage a été pour moi un lieu de sauvetage très concret. Voilà, par les sacrements que j'ai reçus, par la fraternité, l'écoute, la joie, la création, parce qu'on a traversé des paysages magnifiques, les bons repas, tout m'a relevée, vraiment. C'est comme une sève qui est remontée en moi et ça m'a vraiment relevée.
Donc là s'opère le miracle, vous parlez de fraternité.
Oui, la fraternité est essentielle pour moi.
Hein, et là je me tourne avant une pause musicale et je vais terminer cette première partie. Donc avec vous trois, on va vous retrouver avec le docteur Patrick Lepau, directeur de ce pèlerinage de prévention du suicide. Il y a un numéro qui est important et vous teniez, docteur, aussi à le donner aussi aux auditeurs. Ce numéro existe, hein, je vais vous laisser donner ce numéro et vous nous direz pourquoi il est si important.
Oui, il existe un numéro national hein, qui a été fait par le ministère de la Santé. C'est le 3114. Et c'est vraiment un numéro où si on est dans la galère complète ou si on est témoin qu'un de nos enfants ou proches est dans une galère suicidaire, on peut appeler et on a une vraie et très belle aide au téléphone. Voilà, et ça peut se renouveler. C'est pas un accompagnement sur place, mais il faut avoir ce numéro en tête, le 3114.
Alors, le 3114, et avant de vous retrouver, une dernière question. En 20 ans d'expérience, d'écoute, d'approfondissement autour de ce thème du suicide, docteur, qu'avez-vous appris? Vous avez été enseigné sur quoi? sur cette question très précisément de toutes ces personnes qui traversent des moments grands de turbulence et parfois qui vont jusqu'à commettre l'irréparable.
En fait, c'est le travail en équipe. On est complémentaire de la psychiatrie. J'ai envie de dire, les psychiatres, les psychologues, les CMP sont essentiels aussi dans ces moments de crise. Mais il y a besoin après d'un service après-vente. Et des associations comme les Lumières de Raphaël ou autres, on est ces petites perles, j'ai dire, comme dans un chapelet. Après un Notre Père, on passe à un Je vous salue Marie. Ben voilà, nous, on est une petite perle dans ce grand chapelet. Et Lourdes a du sens dans ce sens-là.
Alors, une pause musicale et je vous retrouve tous les trois. Merci.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église consacrée au suicide, à la prévention du suicide, avec trois participants en plateau ici présents. Lali, c'est une longue histoire avec le père Éric Lestage, qui est décédé en juillet 2023, qui venait de terminer cet ouvrage. Et je vous conseille, chers auditeurs, si vous avez des questions peut-être autour de ce thème très précis du suicide, vous pouvez lire ce bel ouvrage avec plein de beaux témoignages. On retrouve d'ailleurs votre témoignage, voilà, ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie, un prêtre engagé dans la prévention du suicide aux éditions Salvator. Si on devait un peu reprendre sur ce thème très précis, je me tourne cette fois-ci vers notre témoin. Marion, vous avez parlé aussi de sauvetage. Vous avez été sauvée. Comment? Par qui? Par quoi? Qui vous a sauvée? Vous avez été sauvée de la mort? Vous avez été sauvée des ténèbres et quelque part de cet enfer et cet enfermement avec ces idées, au fond, on peut le dire,
oui.
Suicidaires,
oui,
n'ayons pas peur des mots.
Non,
hein,
non,
parce qu'il
non,
y a beaucoup de peur et d'appréhension.
Oui, bien sûr.
Hein. Non, voilà. On vous écoute et merci.
Ouais. J'ai envie de dire que j'ai été sauvée... D'abord parce que je me suis retrouvée les mains vides. Je n'avais plus rien à donner. J'ai grandi avec une éducation, il fallait se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas trop à recevoir. Et là, comme j'avais les mains vides et que je n'arrivais plus à donner, à part mes sourires parce qu'ils sont accrochés à moi, j'arrive pas à... Quand je suis arrivée à l'hôpital, la psychiatre m'a dit « Mais vous êtes arrivée avec un grand sourire. » Elle ne comprenait pas trop alors que j'allais mal. Donc voilà, mais... J'arrivais plus rien à donner d'autre, c'était très dur pour moi de cuisiner, de m'habiller, tout était devenu très 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 difficile. Et c'est là que j'ai pu recevoir, les mains vides, j'ai pu recevoir l'essentiel, c'est-à-dire la vraie rencontre, sans artifice. C'est comme si j'avais été toute nue, j'avais plus de masque, comme disait Eric, on porte souvent un masque dans la société, et là j'avais plus de masque. Et c'est là que j'ai pu recevoir beaucoup par de vraies rencontres avec ma famille aussi, enfin mes enfants. Mes trois enfants ont eu le courage de venir me voir et me parler quand j'étais au plus bas.
Donc à l'hôpital, en période
d'hospitalisation. Ils sont venus à l'hôpital et puis à la maison aussi parce qu'ils se questionnaient. Voilà, mon mari est resté toujours présent, même si pour lui c'était très difficile de venir me rencontrer dans ces moments-là. Et puis mes frères et sœurs qui étaient très inquiets, qui le sont toujours, ce qui est très dur pour moi parce que je me sens très bien aujourd'hui, mais ils continuent à être inquiets pour moi. Voilà, et bien sûr, la lumière de Raphaël, les missionnaires qui ont eu une très très grande place dans ce sauvetage. Parce que je me suis sentie écoutée. Il y avait beaucoup aussi de discrétion. Je ne me suis pas sentie envahie. Et voilà, une fraternité, une amitié très forte. Voilà, avec Lali, maintenant, on est vraiment en contact.
Donc voilà, et donc moi par exemple, pour le confinement, ça a été très compliqué parce que je me suis retrouvée sans médecin, sans infirmière, sans soutien thérapeutique et sans droit de sortir. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et en fait, l'Esprit Saint, probablement, lors d'une prière, m'a soufflé de demander à mes amis de m'appeler. Donc chacun a pris un jour. Michel le lundi, Marie-Paul le mardi, Marion le mercredi, Charles-Philippe le jeudi. Voilà, chacun avait un jour, Eric c'était le dimanche, et il m'appelait. Et en fait, ça permettait, moi ça m'obligeait, je me disais, je vais recevoir un coup de téléphone, si tu te suicides, tu ne pourras pas répondre et ils vont être inquiets. Et me dire que j'allais provoquer de l'inquiétude chez les autres, c'était pas possible pour moi. Donc c'était une barrière par rapport au suicide. Parce que c'est important de se mettre des barrières. Et donc là, ça a été une barrière pour moi, l'amitié. Et donc Marion, malgré les ténèbres qu'elle avait traversées, et peut-être parce qu'elle avait aussi traversé des ténèbres, elle pouvait m'appeler le mercredi. Et c'était important pour nous.
Alors, en ce qui concerne ce que vous vivez sur ces 4 jours et demi ici dans la cité mariale près de Marie, deuxième pèlerinage national, et vous en êtes le directeur, docteur Patrick Lepaud. Vous avez plusieurs catégories qui sont représentées durant ces 4 journées de pèlerinage. Quelles sont ces catégories, ces différents profils que vous accompagnez
hein? Oui, tout ouais. À fait. On a eu à cœur de diversifier un petit peu et d'accueillir plusieurs type de pèlerins, si on peut appeler ça comme ça. Il y a ceux d'abord qui sont à risque suicidaire, et donc là, c'est le cœur pour nous du pèlerinage, de leur donner la possibilité de vivre un pèlerinage sécurisé. Donc ils viennent avec un ange gardien, et donc quelqu'un qui sera H24 avec eux, très délicatement et très en confiance, mais en même temps très efficacement présent. Et pour moi, quand, en tant que directeur, c'est vraiment important que je puisse compter sur les anges gardiens, et ils vont pas... Voilà. Si à un moment la personne vulnérable quitte la messe parce que ça devient insupportable, et bien l'ange gardien quitte aussi, et puis tant pis pour la fin de la messe, et je suis centré sur l'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est les personnes en situation de vulnérabilité de suicide. Après, il y a des pèlerins qui sont des aidants de personnes, je veux dire, qui aident une personne qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Donc, c'est des familles qui viennent, des parents. Voilà. Et puis, il y a ceux qui sont endeuillés par suicide. Et le deuil après un suicide est très particulier parce qu'il y a cette question de la culpabilité qui nous ronge. C'est un tsunami lorsqu'on a éprouvé un suicide dans l'entourage. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui sont au service. Et puis, on a voulu qu'il y ait un petit groupe qui soit des priants. Et ceux-là, ils prient pour que le bon esprit, et quand il y a eu le table rase et que tout a été brûlé après une tentative de suicide, qu'on reconstruise et que ce soit le bon esprit et que ce soit Jésus qui soit l'acteur premier et le maître. Donc voilà, les priants, c'est leur job, c'est d'intercéder.
Donc vous, en tant que directeur de pèlerinage, vous en avez besoin de ces priants?
Ah oui, oui.
Parce que les priants et les anges gardiens.
Ouais, ouais. On est que, moi j'aime la phrase de Che Guevara, et Monseigneur Che Guevara, qui dit on n'est que des petites ânes qui portent Jésus ou Marie. Voilà, moi mon job c'est d'être un petit âne qui amène les gens à la grotte, à Jésus, à Marie. Et donc les anges gardiens sont aussi des petits ânes, et les priants sont là pour orienter vers. Après, c'est à Jésus et à Marie de faire leur job.
Alors vous êtes, Marion, une priante durant ce pèlerinage.
Oui.
Pourquoi devenir priante?
Eh bien, parce que, comme on parlait du sauvetage, j'ai pu vraiment aussi faire l'expérience, donc, par toutes ces personnes qui ont été merveilleuses dans ma souffrance, mais aussi une nouvelle rencontre avec le Seigneur. L'éducation m'avait appris plus un Seigneur, un Dieu qui était plus dans l'autorité. Et j'ai découvert un Dieu miséricordieux. Et ça a changé vraiment ma foi. Et donc aussi mon désir de mieux connaître Dieu et donc de rentrer dans des exercices spirituels pour mieux apprendre à prier. Et du coup, je prie de plus en plus et la prière devient très féconde, je trouve. Enfin, je vois que quand je prie, il se passe des choses qui ne se passent pas quand je passe ma prière. Et c'est pour moi essentiel. Donc, je suis très heureuse.
Alors, pour nous, la prière, c'est la base du pèlerinage. On est venu en pèlerinage pour prier. Voilà, pour permettre à des personnes suicidaires de prier. Donc la prière, c'est vraiment le cœur. Et sans prière, le pèlerinage n'a pas de sens.
Et je crois qu'aujourd'hui, ce pèlerinage dure 4 jours. C'est un jour important aujourd'hui, puisque c'est la journée, vous allez peut-être en dire 2 mots, directeur et médecin à la fois, et diacre, c'est la journée réconciliation. Alors, c'est le moment clé.
C'est un moment important, oui, c'est un moment important d'intériorisation, de faire un peu silence. Et il y a même quelques personnes dans le pèlerinage qui ne sont pas croyants, mais qui sont en recherche. Et donc, on ne met pas de la prière et on ne fait pas du bourrage de crâne. On laisse les gens s'approcher de Jésus et après, c'est dans la relation intérieure. Et là, aujourd'hui, la réconciliation, c'est de proposer de vivre le sacrement de réconciliation pour ceux qui sont baptisés, ou c'est d'aller se réconcilier avec une personne, ou on écrit sur les prénoms des personnes qui ont fait des tentatives de suicide ou qui se sont suicidées, on écrit leurs prénoms sur un galet. Et parfois, c'est de reprendre ce galet d'une personne qui s'est suicidée dans mon entourage et de lui dire « tu m'as fait souffrir ». J'en ai pris plein la figure, mais ouais, je te pardonne. Et voilà, cette grâce de la réconciliation et le pardon, c'est se rapprocher et de l'autre et de Jésus.
Au fond, on parle d'une victoire, là, hein, quand vous vous présentez un peu cette journée spéciale. Réconciliation, c'est une victoire sur les ténèbres, la mort, parce que qui dit réconciliation ? Permettez-moi, je vais vous interroger les uns et les autres, mais c'est une réconciliation à peu près dans un premier temps avec soi-même.
Oui, avec soi-même, avec les autres, mais oui, beaucoup avec soi-même et avec nos lourdeurs et nos masques fait qu'on n'a pas envie d'y aller, mais oui, c'est d'aller se rejoindre soi-même sur nos lourdeurs, nos failles, nos vulnérabilités.
Alors, on ne dit pas tout, mais ceux qui souhaiteraient, donc l'an prochain, dans quelques mois, en tant que parents, grands-parents, personnes endeuillées suite au décès d'une personne, d'un proche par suicide, on peut y participer. Vous-même, aujourd'hui, docteur, vous donnez une conférence. Comment vivre le deuil après le décès d'un proche mort par suicide? N'ayons pas peur des mots. On parle bien de mort et on parle bien de suicide.
Tout à fait. Et donc, comment continuer à vivre après ce tsunami lorsqu'on connaît un suicide ou une tentative de suicide? Parce que c'est aussi ébranlant. Comment arriver à refaire confiance, se faire confiance, parce que du coup, si souvent on est en culpabilité, et puis ce qui est très étonnant, c'est les gens disent « j'éprouve un sentiment de honte, je suis une mauvaise mère, j'ai rien vu venir, je suis nul », et voilà. Et puis, moi, en tant que diacre, c'est aussi de voir qu'on a une pastorale à travailler. Et après un suicide, lorsqu'on on célèbre des funérailles, il faut absolument que qu'on puisse repérer dans la famille. Il y a un vrai risque de contagion suicidaire. Et donc, la personne qui va être alcoolique, qui va être déprimée, s'il y a bien des personnes que la communauté chrétienne doit épauler et inviter, c'est cela, parce qu'il y a un vrai risque de contagion suicidaire.
Vous avez parlé d'une vraie pastorale. Il y a un vrai travail aujourd'hui, Patrick, Lali, Marion ici présent, un travail n'a pas abouti véritablement.
Je pense que l'Église est comme la société, elle découvre le suicide, et c'est le rôle justement de ça.
Alors vous avez parlé de honte, le suicide reste encore un sujet tellement tabou, où on en parle beaucoup, on en parle peu, ou alors on n'en parle pas bien. Faut-il bien en parler ?
En tout cas, j'aime bien une phrase de Jean-Louis Terrat, un psychiatre, l'ancien patron de psychiatrie de Lyon, qui disait « ne pas en parler tue ». Et en parler ne tue pas. Et de parler du suicide, de parler de la prévention du suicide, de dire aux gens, ça peut vous arriver d'avoir ces idées-là, mettez-vous en confiance avec des personnes, alors avec toute la problématique des déserts médicaux, c'est compliqué hein, aujourd'hui de trouver des gens qui peuvent vous écouter, un psychiatre, un psychologue, mais ça peut être aussi les amis, et voilà, vivons cette fraternité entre nous.
Donc n'ayons pas peur de l'aborder. Alors n'ayons pas peur aussi de prendre contact avec votre association que vous représentez ici, l'association de la lumière de Raphaël. On n'a pas raconté l'histoire, mais on va finir ce Vivante Église du jour avec un peu cette belle histoire, hein, parce qu'on on parle d'une belle histoire, de la lumière de Raphaël.
Effectivement, la lumière de Raphaël, alors le premier pèlerinage a eu lieu en 2003, mais en fait, on n'avait pas de nom, on appelait ça le chemin spirituel. Et en 2015, on a été invité par le pape à le rencontrer, à vivre une messe avec lui. Et nous l'avons rencontré. J'ai eu la chance d'être prise dans ses bras, qui a été pour moi l'un des moments les plus forts de ma vie. Et donc après cette rencontre extraordinaire, on s'est retrouvé un petit groupe, on était quatre, et on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on trouve un nom. Donc la lumière, ça nous paraît, moi ça me tenait vraiment à cœur par rapport aux ténèbres que je porte. Et Eric, c'était Raphaël parce que c'est l'ange guérisseur de la Bible. Donc ça a été la lumière de Raphaël. Et puis nous avons fondé l'association à notre retour de Rome pour vraiment ancrer cette association dans la pérennité.
Vous avez parlé du pape, hein, le pape François, quand il vous a pris dans ses bras, ça a été important. Pourquoi si important? C'était le représentant du Christ pour vous?
Non.
Qu'est-ce qui s'est vécu?
En fait, c'était... moi, j'avais fait la demande un peu folle de recevoir le sacrement de réconciliation avec lui. Et en fait, je ne l'ai pas reçu et c'est très bien que je ne l'ai pas reçu. Parce que j'ai reçu une plus grande grâce. C'est que j'ai eu la chance de voir mes péchés. Dans ses bras et de voir que ce n'était rien face à l'amour de Dieu. Et je n'aimais pas trop la parabole du fils prodigue. Je me disais, bon, oui, c'est une belle histoire, mais enfin, ça va, quoi. Et en fait, maintenant, j'y suis très attachée parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté dans ma chair. Voilà.
Beau témoignage, fort témoignage. Alors, votre témoignage, vous apparaissez dans ce livre que je conseille. Ils voulaient mourir. Ils ont éclairé ma vie avec vraiment toute l'histoire du père Éric Lestage. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Décédé en juillet 2023, un prêtre qui était en fait engagé dans son ministère pendant près de 20 ans. Ça a duré près de 30 ans puisque c'était il y a 30 ans la rencontre. Et vous apparaissez dans cet ouvrage avec le prénom de Sandrine.
Tout à fait.
Voilà. Donc si on veut vraiment découvrir en profondeur un peu ce cheminement et votre témoignage, on peut se procurer ce livre aux éditions Salvador. Un numéro de téléphone, vous l'avez rappelé, docteur Patrick Lepeau, c'est ce numéro d'appel, le 3114, qui est un numéro national de prévention du suicide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si des personnes vous ont écouté, tous les trois aujourd'hui, des personnes qui sont peut-être au cœur d'une crise ou la crise d'un proche, qu'est-ce que vous pouvez conseiller les uns et les autres, docteur Patrick Lepeau?
Si c'est le tsunami et la grande crise, c'est le 3114, ça c'est clair. C'est eux qui vont vous guider et vous dire, oui, ben là, il y a une urgence psychiatrique, il faut parfois, c'est ça qui va sauver. Ou non, on vous écoute, et allez-y, osez le rencontrer, creusez la rencontre, créez la confiance.
À quel moment contacter la lumière de Raphaël, cette association que vous représentez, Lali?
On peut
crise, on peut contacter.
En pleine crise, c'est pas le but.
3114, on retient.
3114.
3114.
La crise, c'est le 3114.
Et vous-même, Marion, le mot de fin, puisque vous avez accepté avec courage de prendre la parole et de témoigner, vous qui êtes une priante pendant ce pèlerinage national de prévention du suicide.
J'aurais envie de dire, surtout ne pas rester seule. Et chercher aussi dans sa proximité quelqu'un en qui on puisse avoir vraiment confiance et ne pas hésiter à l'appeler et lui confier sa détresse. Voilà, moi j'ai eu la chance que ce soit une amie qui m'appelle au moment de la plus grande détresse et qui soit là, qui soit venue à moi. Mais voilà, Ne pas rester seule, surtout.
Il y aurait tant et tant de questions. Encore une ou deux questions au docteur Patrick Lepau. Comment repérer les symptômes d'un mal-être et d'une personne suicidaire, docteur?
C'est la spirale de descente. Je deviens nul, tout autour de moi est nul, je ne vaux plus rien, je suis un poids pour mon entourage. Tous ces mots-là doivent nous dire, waouh, là c'est chaud, la crise suicidaire est installée. Et j'ai envie de dire les facteurs protecteurs, et c'est écrit dans les manuels même du ministère, c'est un, la foi, les croyances, donc... Voilà, soyons tranquilles de pouvoir aussi proposer Lourdes. Moi, je pense que la radio est un facteur protecteur. C'est que de rester en lien, d'écouter des gens, c'est un gros facteur protecteur. Le pire, c'est la solitude et l'isolement. Donc, voilà, sachons être des auditeurs qui s'écoutent.
Voilà, alors merci à vous trois. Hein. Merci Lali, merci Patrick Lepau, merci à vous Marion. Je rappelle que un numéro d'urgence, hein, et ça c'était important, je crois qu'on a accompli cette mission. Ce numéro d'urgence, c'est le 3114, numéro national, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Et puis sinon, vous pouvez aller plus loin en visitant aussi le site de votre belle association, hein, la lumière de Raphaël.fr. Oui. Voilà, donc un site internet existe. Et puis ce livre avec plein de beaux témoignages. N'ayons pas peur d'aborder ce sujet. Vous l'avez fait très bien tous les trois. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne fin de pèlerinage. Et puis ce livre, Ils voulaient mourir, ils ont éclairé ma vie. Un prêtre qui était fortement engagé dans cette prévention du suicide. Et cette œuvre, cet apostolat se poursuit aussi à travers l'association La Lumière de Raphaël. Bon pèlerinage et merci.
Merci. Merci. Merci. Thank you.